Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ces témoignages que nous venons d'entendre, Seigneur, pour cet engagement, Seigneur. Tu es celui qui sauve encore aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce pour la suite de cette journée, Seigneur. Que ce qui a été vécu par Roland, par ta grâce cet après-midi, à travers l'annonce de ta parole, par la conviction de ton esprit, puisse être vécu par d'autres, Seigneur. Te rencontrer, toi, le Sauveur, le Seigneur de toutes choses. Que tu puisses bénir ces moments, répandre ton esprit dans les cœurs, Seigneur. T'aidez-moi, Seigneur, par ce même esprit, mon Dieu, afin, Seigneur, que je puisse avoir la parole à propos, la parole facile, Seigneur. Que celui qui est fatigué soit relevé, que celui qui est découragé soit exhorté, que celui qui est triste soit consolé par ta grâce. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bonjour à tous. Fait plaisir de voir du monde un dimanche après-midi. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez méditer, vous pouvez adorer. Je sais que ce sera spirituel, ne vous inquiétez pas. C'est plus dur pour moi. Je vous propose donc de faire une lecture dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc au chapitre 7. Les évangiles étant quatre récits par quatre témoins différents de la vie de quelqu'un qui est venu sur cette terre, pas n'importe qui, Jésus de Nazareth, Jésus le Christ. Évangile signifiant tout simplement bonne nouvelle, car vous pouvez recevoir toutes les nouvelles que vous voulez. S'il y en a une qui est bonne par-dessus toutes les autres, c'est que Jésus est venu pour rencontrer, pour chercher, pour sauver. Et c'est une rencontre justement avec ce Jésus que nous allons lire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 7, à partir du verset 11, où il nous est dit ceci. Ensuite il se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il approcha de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle une importante foule de la ville. Le Seigneur la vit, il fut ému par elle et lui dit « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi » Et le mort s'assit et se mit à parler. Il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Amen. Naïn, vous y êtes déjà allé vous? Non. Ah ça. Naïn, ça a retenu mon attention. Parfois, est-ce que vous êtes déjà demandé « Mais je vis à Arles ?» Je vis à Lunel, je vis à Nîmes, je vis à vous, où vous voulez, mais pourquoi la ville où je vis s'appelle comme ça? Pourquoi Arles, ça s'appelle Arles? Il y a des villes, bon, ça vient un peu plus facilement. On va dans le centre de la France, Clermont, Montluçon, Mont, ça revient tout le temps parce que c'est dans les monts, les montagnes. Clermont, c'est un beau mont, bien clair, bien visible, voilà, c'est pas... Là, je vois pourquoi ça s'appelle comme ça. Il y a des villes, Digne-les-Bains, Aix-les-Bains, Ballaruc-les-Bains, il y a une station thermale, il y a quelque chose. Naïn, après avoir regardé ce que ça voulait dire beauté. Je ne sais pas ce que ça pouvait signifier qu'à force, que les gens qui passent par cette ville ont dit « ça, cet endroit-là, c'est une beauté ». Et qu'à force, ça en est devenu le nom de la ville. Je vais me rendre à la ville de beauté, ah ça... Ça sent bon, ça fait envie. Il y a des villes comme ça, on dit le nom. Ah, j'aimerais bien aller vivre là. On entend d'autres noms. Tu vas aller à Dunkerque. Quoique, Dunkerque, d'après mes souvenirs, ça veut dire église du sable, église sur le sable. Au final, ça fait envie, hein? Mais il faut vraiment ça, hein? Naïn. Puis au final, on se rend à Naïn et qu'est-ce qu'on y croise? Un cortège funèbre, un mort. La ville qui était belle, d'un coup, j'arrive à Naïn, c'est la beauté. Ta 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 ta. D'un coup, l'ambiance, ça y est plus là. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un peu de l'ambiance. Parce que Jésus rentre dans la ville. Jésus rentre dans la ville avec ses disciples, avec les foules qui le suivaient. Juste quelque temps auparavant, Jésus avait fait un miracle. Un centurion qui avait son serviteur à qui il tenait, qui était malade, est venu accourir à Jésus. Jésus dit, je vais venir chez toi, je vais guérir ce malade. Non, Seigneur, ne te prends pas de tant de peine pour moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Va, il est guéri. Et à l'instant même, en effet, le serviteur fut guéri. Et Jésus auparavant avait fait de nombreux miracles, de nombreuses consolations. Jésus, là où il allait, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les possédés étaient délivrés des démons. Car oui, les démons existent, et encore dans notre monde d'aujourd'hui, le diable existe, le démon existe. Des gens peuvent être possédés, liés par des puissances ténébreuses. Mais encore aujourd'hui, Jésus est vivant et ce qui s'est fait pour eux peut se faire de même cet après-midi. Mais ça devait être une foule joyeuse quand même de voir tout ça. Toute cette foule joyeuse. Jésus, allez, venez, on va à Naïn. Ouais! Ça a dû baisser l'ambiance. Satan a trouvé quelque chose de bon, on trouve la mort. Combien de fois dans nos vies, dans notre entourage, on peut s'attendre à trouver quelque chose de beau? Et quand on y regarde de plus près, c'est la mort. C'est triste. Quand bien même il y aurait les plus grands sourires, parfois un beau sourire, on interroge le cœur de la personne, c'est beaucoup plus triste. J'ai toujours été étonné de ceci. J'étais quelqu'un qui était un fana des comiques, des imitateurs. Je pouvais vous répéter les sketchs par cœur. Mais dès qu'il y avait un interview d'une de ces personnes-là dont le boulot c'était de faire rire tout le monde, il vous disait, oh, moi je suis quelqu'un de plutôt triste en réalité. J'ai jamais été un joyeux. J'ai toujours été un peu dépressif. J'ai toujours été. Mais c'est bizarre quand même. C'est des gens qui en apparence sont heureux, ont le sourire, font rire tout le monde. Puis quand vous les interrogez, eux, je suis triste. Pourtant, il voit des gens s'éclater de rire devant lui tous les soirs. Il y a le prix des places, des entrées qui vont avec, et il est triste. C'est étonnant, mais dans beaucoup, beaucoup de vies, c'est comme ça. Il y a même un homme dans la Bible qui, lui, on pourrait dire, alors lui, s'il y en a un qui n'avait pas le droit d'être triste, c'était lui, c'était l'Ecclésiaste, un grand homme qui a été roi d'Israël à Jérusalem. Il a été roi dans un pays où coule le lait, le miel, où durant même un des règnes, l'argent était tellement commun, on ne faisait plus attention. Je ne sais pas si vous, aujourd'hui, vous trouvez 1 kilo d'argent à la sortie du matériau, hein, pas le papier. Vous trouvez 1 kilo d'argent à ramener ou faire ailleurs. Vous ne le laissez pas passer. À l'époque, oh, c'est que de l'argent. Un homme qui s'est bâti de grands ouvrages. Il s'est créé toutes les maisons qu'il voulait. Il avait du bétail plus que n'importe qui. Il avait de l'argent plus que n'importe qui. Il avait même les moyens de s'acheter toutes les chanteurs, les chanteuses. Il pouvait avoir la culture, les amusements plus que n'importe qui. Il dira même, et j'ai même eu le délice des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Si, d'un point de vue humain, je regarde la vie de cet homme-là, humainement parlant, j'aurais eu peut-être tendance à dire, il a une belle vie, non? À l'écouter, il lui manque rien. Il réussit dans ses entreprises. Matériellement, il est comblé. Les femmes, il s'en vantait, mais dans la suite de sa vie, ça a plutôt coincé. Mais humainement parlant, on aurait tendance à dire aujourd'hui, c'est un critère de bonheur. Les conquêtes. Je peux me regarder dans le miroir. Ah. Et cet homme-là, qui va ainsi décrire sa vie, va conclure ainsi, j'ai haï la vie. Écoute, toi là, qui es fils de roi, qui a tout ce que tu veux, à qui il ne manque rien. Tu le déclares toi-même, tu me dis que tu as haï la vie. Moi, j'aurais le droit, à la rigueur. T'as vu où je suis né? T'as vu l'état de mes affaires? T'as vu ma vie, ce que ça a été? T'as vu l'état de mes parents? T'as tout vu ce que j'ai? Et c'est toi qui dis qu'il a haï la vie? Eh ben oui. En apparence, il aurait eu tout de beau, mais c'était la mort dans son cœur. Ce qu'il avait tout considéré, tout ceci passerait, tout ceci serait vanité, tout ceci ne serait que le temps de sa vie. Tout ce qu'il a construit, ça passerait à quelqu'un d'autre, et celui qui s'en prendrait après lui, qu'est-ce qu'il en ferait? Est-ce qu'il l'entretiendrait? Est-ce qu'à peine lui passé, ça deviendrait poussière? Combien de fois on peut regarder ceux qui sont autour de nous en disant « si j'avais ce qu'il a, si j'avais ça, si j'avais ça en plus, si j'avais ça en plus, j'aurais une plus belle vie. » Puis une fois que j'ai ce qu'il a, « ah, s'il me faudrait ça de plus, et il me faudrait ça de plus, et il me faudrait ça de plus, et là j'aurais la belle vie. Ah, et il me faudrait encore ça de plus, et il me faudrait encore ça de plus. » Et sans fin, sans fin, sans fin. L'apparence, ça ne veut rien dire. L'apparence, c'est de la comédie. L'apparence peut se déguiser, peut faire un beau sourire de façade. Même à l'église, ça va ? Oui, avec le Seigneur, ça va. Pas que j'oublie de mettre les épingles avant de venir à l'église. Hein. Ça va. Puis là, au volant, dans la voiture. Parce que quand on y regarde de près, est-ce que parfois on s'interroge assez dans nos vies, Seigneur, je suis persuadé d'être beau, je suis persuadé d'être heureux, je suis persuadé de tout avoir, mais quand j'y regarde bien, est-ce que je pourrais repartir en disant « j'ai aimé la vie » ou est-ce que je partirais au final en disant « que d'efforts pour tout ça, que de contrariété, que de tristesse, que de vanité. Au final, j'ai haï la vie. » S'interroger souvent sur les apparences. Et là, la beauté avec le cortège funèbre, là, c'est sûr... La pauvre veuve est pleurée, là, elle habite à beauté. On lui envoie une lettre, elle habite à beauté. Son adresse, c'est beauté. Rue de la Grâce, ville de la beauté. Et là, elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait. Parce qu'elle avait perdu ce qui comptait. Elle avait perdu ce qui lui restait. Elle avait perdu son fils unique. C'est triste d'enterrer un de ses enfants. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. À l'époque, en plus de la perte familiale, techniquement, c'est une femme qui a tout perdu. On est en Israël à l'époque, il n'y a pas de pension de réversion. Travailler une femme seule, c'est pas grand-chose. La personne dont qui elle dépendait pour sa vie, c'était son fils. Elle perd son fils, elle perd tout. À peine a-t-elle, selon la loi, le droit de glaner derrière les orphelins et les veuves et les immigrés. Mais j'imagine que les orphelins qui étaient plus jeunes qu'elle, ils devaient passer avant elle. Les plus jeunes veuves, ils devaient passer avant elle. Les immigrants, ils devaient passer avant elle. Alors, elle glanait le glanage du glanage. Il ne devait pas rester grand-chose non plus. Elle a tout perdu le jour où elle a perdu le fils. C'est quelque chose qu'on trouve dans tout le long de la Bible. Il me manque le fils. Il me manque le fils. Il me manque le fils. Abraham était malheureux. Il avait une belle femme. Tellement belle que dès qu'il entrait dans une ville, tu vas dire que t'es ma sœur, hein. C'est jamais parce que j'ai pas envie qu'on me passe dessus le corps pour t'avoir, donc que t'es ma sœur. Il était riche. Encore un. Il était malheureux. Il lui manquait une chose. Il me manque un fils. Anne, elle avait un mari qui l'aimait, qui lui donnait le double de ce qu'il pouvait donner à tout le monde. Elle était malheureuse. Elle était triste. Il lui manquait le fils. tout le long de la Bible, il me manque le Fils, il me faut le Fils, il me faut le Fils, il me faut le Fils. Ce n'est pas pour rien qu'à un moment même dans la Bible, il dira « Celui qui a le Fils a la vie ». Cette femme a perdu le Fils, mais elle va rencontrer le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Peut-être ce qu'il manque dans ta vie, ce qui fait que malgré la beauté, malgré toute chose qui te rend malheureux, c'est que comme elle à cet instant-là, tu n'as pas le Fils dans ta vie. Il te faut le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Il te faut le Fils de Dieu dans ta vie. Celui qui est en lui n'est pas condamné, il ne passera pas le jugement. Mais il est sauvé pour l'éternité, délivré de ses péchés, pardonné, réconcilié avec Dieu. T'as le choix. On ne peut pas te forcer. Quand Dieu va demander au peuple de faire un choix, il va dire « Voici, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Mais Dieu, qui est juste et bon, qui ne peut pas mentir, ne peut pas leur laisser croire que les deux choix sont équivalents. Il va rajouter « Choisis la vie. » Tu peux choisir. Tu peux faire le mauvais choix. Tu peux faire le bon choix. Celui qu'a fait Roland cet après-midi. Je m'engage, je te choisis toi. Je veux le Fils, aujourd'hui, dans ma vie. Le retrouver peut-être. Peut-être que je l'ai eu. Elle a eu un Fils, mais elle l'a perdu. Peut-être tu as eu le Fils. Puis il a un peu reculé. Il a un peu sorti. Peut-être qu'il est un peu dehors à la porte à frapper à ton cœur. Peut-être tu peux lui demander de revenir aussi. Mais faire venir le Fils... On m'a parlé de ce Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole de Dieu incarné. Lui qui était sans péché, né d'une vierge, qui touchait des malades, c'était pas lui qui était infecté par la maladie, c'était eux qui étaient infectés par sa vie. C'est beau, mais c'est pas pour moi, parce que lui il est beau. Mais moi, j'ai ça dans ma vie, j'ai ça dans ma vie. J'ai encore ceci, j'ai encore cela, je pratique encore ceci. Seigneur, c'est beau tout ça, mais c'est trop beau pour moi. Je ne suis pas digne, je ne suis pas assez propre pour que Dieu vienne dans ma vie. Plus tard, oui, quand j'aurai arrêté ceci, quand je me serai amélioré, quand j'aurai réglé des choses, là je pourrai venir peut-être un peu aux réunions, là je penserai à donner ma vie au Seigneur. À ce moment-là, je le ferai, pour l'instant je ne peux pas, je ne suis pas digne. On pense souvent comme ça. Il y en a beaucoup qui ont cette pensée dans la tête. Sans doute à cause, dans notre France, d'une éducation, d'un fond plus ou moins religieux où on pense qu'il faut mériter Dieu, qu'il faut faire des œuvres. Si je suis assez bon, si je fais assez de bien, peut-être que... Là, si je fais assez de bien, peut-être que je pourrais réussir à m'expliquer avec Dieu, mais tu ne pourras pas t'expliquer avec Dieu. Il est dit dans la Bible que quand on sera en sa présence, toute bouche sera fermée. Peut-être tu as appris le langage des mains, mais ta bouche sera fermée devant lui. Tu ne pourras pas te défendre, tu ne pourras pas répliquer. Il y a juste une chose qui pourrait être dite. Si lui voit le Fils dans ta vie. Le Fils, oui, on m'en a parlé, on m'a dit de l'accepter. Mais moi, dans ma vie, le Fils... Jésus, voyant cette femme émue, va faire quelque chose d'inouï. Nous, peut-être, on n'y pense pas. Il va s'approcher. Et lui, Jésus, il va toucher le cercueil. La belle affaire. Nous, dernièrement, on a eu un service d'obsèques à Lunel et toute la famille est passée, a mis la main sur le cercueil, on s'est dit au revoir. Ça ne nous choque pas énormément. Mais à l'époque... Toucher un cercueil, c'était se rendre religieusement impur. Durant au moins 7 jours, c'était se sortir de la vie sociale, de la vie culturelle, de la vie spirituelle du peuple. Je m'éloignais, je me mettais en quarantaine pour avoir fait ça. Et en plus, Là, c'est pas un membre de la famille qui fait ça. Un membre de la famille, c'est normal, mais là, c'est Jésus. Un homme qui était consacré à Dieu, il avait le vêtement à franges. Il nous est dit dans un autre texte. Un homme comme lui, mais même pour un membre de sa famille, selon les coutumes de l'époque, ça pouvait hésiter à participer aux funérailles pour ne pas se rendre impur, pour ne pas se sortir de son service, pour ne pas se sortir de sa consécration à Dieu. Et là, Jésus, pour une femme qu'il n'a jamais rencontrée avant, va traverser la foule, va poser sa main, lui. Mais on ne fait pas ça. Seigneur, tu ne fais pas ça. Je suis surpris même en lisant le texte. Il devait être abasourdi, c'est pour ça que personne n'en a empêché. Il va tellement se dire à le voir passer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche vraiment? Il va vraiment toucher le cercueil? Oui, il l'a fait. Parce que, oui, Dieu est saint. Mais quand il vient dans l'impureté, quand il vient dans la mort, ce n'est pas l'impureté qui gagne. Ce n'est pas la mort qui gagne, c'est lui qui gagne, c'est la vie qui gagne, c'est sa sainteté qui gagne, c'est sa lumière qui gagne. Peut-être tu as les mêmes conventions sociales que ces gens de l'époque qui te disent « pas maintenant, n'approche pas, je suis trop sale, je ne suis pas prêt, je suis trop imparfait ». Justement, laisse-le. Laisse-le fendre tes doutes, laisse-le fendre tes obligations, laisse-le fendre tes schémas de pensée, laisse-le s'approcher. Et tendre la main sur toi, te toucher, même sur ce que tu as de plus sombre, même sur ce que tu as de plus caché, même sur ce que tu as de plus sale. Laisse-le venir, laisse-le étendre ta main, laisse-le toucher. Tu n'en mourras pas. Au contraire, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a touché, il a dit une parole, et le jeune homme s'est relevé. Et il a été rendu à sa mère. Si le Seigneur te touche, si le Seigneur met sa lumière sur ta vie, si le Seigneur te parle, n'aie pas peur d'une condamnation, n'aie pas peur d'une accusation, n'aie pas peur, mais laisse-toi toucher, laisse-toi convaincre. Ce n'est pas le malheur qui t'arrivera, c'est la vie. Ce n'est pas la mort qui t'arrivera, c'est la vie. Ce n'est pas la destruction qui t'arrivera, c'est la guérison. Laisse-le te toucher. Laisse toucher ce qu'il peut y avoir de noir en toi. Laisse toucher ce qu'il peut y avoir. Ce n'est pas, t'as pas besoin de le dire à voix haute, t'as pas besoin de le raconter à qui que ce soit, juste Seigneur, j'accepte que tu viennes. J'accepte que tu touches. Je me laisse convaincre par toi, je me laisse fléchir par toi. Viens et tends ta main, dis une parole. Cet après-midi, le Seigneur peut te toucher. Cet après-midi, le Seigneur peut dire une parole. Pardonner, guérir, délivrer, réconcilier. Il n'y a pas besoin de plus. Il faut que tu le laisses traverser. Lui, il a tout fait déjà. Il tend déjà sa main. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il est au-dessus de toi, la main tendue. Mais vas-tu laisser la main se poser? Ça, je ne peux pas le faire pour toi. Je peux te pousser, ce serait bien que tu le fasses. C'est le mieux que tu fasses. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que Cyril peut faire. C'est tout ce que Bernard peut faire. C'est tout ce que tous ceux qui ont déjà vécu ça peuvent faire. Laisse-le te toucher, laisse-le te relever, laisse-le te guérir, laisse-le te sauver, laisse-le te pardonner. Laisse-le peut-être aussi, comme je l'ai dit vite fait, revenir là où il est déjà venu. Peut-être, il y a longtemps, il est venu, il a touché. Tu as marché un peu, puis tu es retourné dans ton cercueil. Ressors-en. Reviens à la vie. Dis Seigneur, reviens. Relève, réfléchis, souffle. Sans aucune condamnation, sans aucun jugement. Mais Seigneur, reviens. Le Seigneur rétablira. Le Seigneur reconstruira. Le Seigneur pourra même faire que les années que tu as perdues, tu les retrouves, ils te les rendent. Sans un regard de travers de qui que ce soit, sans aucune remarque, sans aucun rappel. Mais, encore une fois, c'est toi qui le laisses traverser ta foule de pensées, ta foule de doutes, ta foule de pleurs, et qui le laisse poser sa main. C'est tout ? Oui. C'est ça l'évangile, c'est tout. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Juste l'accepter, moi qui suis pourri, moi qui fais ceci, moi qui fais cela, oui, c'est tout. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Crois, en un instant, en un éclair, tu seras pardonné. Même, je finis avec ça, un homme qui était mauvais, mais mauvais. Il nous est décrit comme respirant la menace et le meurtre. Quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a torturé, quelqu'un qui a persécuté Saul de Tarse, alors qu'il se préparait, qu'il se rendait à Damas pour donner libre cours à sa fureur, à sa rage, à sa colère, à ses mauvais penchants, il a été arrêté par Dieu. Une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Que ferais-je, Seigneur ? Que faut-il que je fasse ? En un instant, ce meurtrier a été retourné, transformé, et l'homme que l'on disait étant celui qui respire la menace et le meurtre, est celui qui a écrit l'un des plus beaux textes sur l'amour. Tu veux entendre parler d'amour ? Et lis ce qu'a écrit celui qui respire la menace et le meurtre. Mais qui a entre-temps rencontré Dieu, qui a entre-temps laissé rentrer dans sa vie. Lis 1 Corinthiens 13. Tu veux entendre parler d'amour ? Lis 1 Corinthiens 13. Épargne-toi les 75 euros de séance par semaine de psychologue. Lis 1 Corinthiens 13. Épargne-toi les longues thérapies, rencontre Dieu. Épargne-toi les longues consultations, rencontre Dieu. Et en un instant, en un éclair, même celui qui respire la menace et le meurtre, devient le plus grand des prédicateurs de l'amour. Je n'en dirai pas plus, on va juste tous ensemble baisser les têtes et prier. Seigneur, tu es celui qui peut guérir en un instant. Seigneur, tu vois, tu as dit annoncer ta parole. Ce qui est humainement faisable a été fait, Seigneur. C'est pourquoi nous comptons sur toi, mon Père. Que par ton esprit, Seigneur, celui qui avait besoin de cette parole puisse être convaincu de péché, de justice, de jugement, pour le salut, pour la guérison, pour la joie, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, que tu puisses vraiment passer dans les cœurs, passer dans les rangs, convaincre, Seigneur, que tu puisses arracher du feu, arracher de la tristesse, arracher de la mort, mon Père, sauver pour la gloire de ton nom. Console, relève, guéris, exhorte, par ton esprit, mon Père. Amen.